Chapitre 6. Le choix des images. Ce que des discours entiers peinent à décrire, un mot suffit parfois à le faire comprendre. Un mot, un seul, qui parvient à cristalliser sur lui des argumentations complexes, condenser en lui des concepts insaisissables, ouvrir une fenêtre sur tout un univers de sens. Un mot qui n'a rien de magique. Il se contente d'éveiller, chez nos auditeurs, l'image adéquate pour leur parler au cœur. Nous venons d'entrer de plein pied dans le domaine des métaphores. La métaphore. Voilà probablement l'un des premiers mots qui nous vient à l'esprit spontanément lorsque l'on songe à la rhétorique. Elle est la figure de style que tout le monde connaît, tout en ayant souvent du mal à la définir. À juste titre d'ailleurs. Des livres entiers ont été écrits pour tenter de saisir son essence, que ce soit d'un point de vue linguistique, rhétorique, artistique ou philosophique. Ce travail est rendu délicat par le fait que, derrière le mot « métaphore », se cachent en réalité de nombreux concepts différents enchâssés les uns dans les autres. Nous ne chercherons pas ici à en circonscrire la signification précise, d'autres s'y sont déjà attelés. Contentons-nous de rappeler brièvement quelques définitions. En tout premier lieu, l'utilisation d'images dans le discours relève de ce que l'on appelle le raisonnement par analogie. Celui-ci consiste, nous l'avons vu, à faire remarquer une similitude, une proximité entre deux choses différentes. Certaines analogies sont explicitement présentées comme telles, à l'aide de mots du type de « comme » ou « pareil à ». On parle alors d'une comparaison. Par exemple, chez Baudelaire, « la musique souvent me prend comme une mère ». D'autres sont implicites. Un mot est détourné de son sens propre pour être employé à la place d'un autre sans que cela ait été annoncé au préalable. On appelle cela un trope. C'est parmi les tropes que nous trouvons la métaphore, qui consiste à désigner une chose par le nom d'une autre avec laquelle elle entretient un rapport de ressemblance. Toutes deux possèdent un attribut ou une qualité en commun qui justifie de les rapprocher. Par exemple, chez Lamartine, c'est une nuit d'été, nuit dont les vastes ailes font jaillir dans l'azur des milliers d'étincelles. Où les ailes sont une métaphore de la pénombre et les étincelles une métaphore des étoiles. Parmi les tropes, on compte également la métonymie, qui consiste à désigner une chose par le nom d'une autre avec laquelle elle entretient un rapport de correspondance. Les deux mots sont d'ores et déjà associés, ce qui rend leur rapprochement peu surprenant. Par exemple, chez Corneille, « Rodrigue, as-tu du cœur ?» où le cœur est une métonymie classique du courage. Enfin, le troisième trope est la synecdoque, qui consiste à désigner une chose par le nom d'une autre avec laquelle elle entretient un rapport de connexion. Cela revient à désigner le tout par la partie, le général par le particulier, le groupe par l'individu ou inversement. Par exemple, chez Victor Hugo, les voiles au loin descendant vers Harfleur, où les voiles sont une synecdoque des bateaux dont elles ne sont qu'une partie. Si, du point de vue de la stylistique, il peut se révéler pertinent de bien distinguer ces concepts les uns des autres, il n'en va pas de même en rhétorique. Comme pour les assonances, ce qui nous intéresse ici, c'est moins ce que ces figures sont que ce qu'elles font. Or, les effets produits par les comparaisons, les métaphores, les métonymies et les synecdoques sont largement similaires. Par souci de simplification, nous utilisons donc le mot le plus connu, « métaphore », pour désigner ces quatre analogies ayant en commun de pivoter sur un seul mot. Notons qu'il existe un cinquième type d'analogie suffisamment spécifique pour que nous conservions sa dénomination, il s'agit de l'allégorie. Contrairement aux métaphores, l'allégorie se déploie sur une séquence de mots, une phrase, un paragraphe, voire un texte entier. Elle permet ainsi de construire des propositions à double sens. Le premier, littéral, prend souvent la forme d'un récit concret. Le second, implicite, possède souvent des implications morales, spirituelles ou politiques. La célèbre fable de Jean de La Fontaine, « Le corbeau et le renard », est, par exemple, une allégorie des dangers de la flatterie. Dans les lignes qui vont suivre, nous nous concentrerons surtout sur les métaphores, qui sont à la fois très fréquentes et aisées à illustrer. Mais gardons à l'esprit que l'essentiel de ces développements vaut également pour les allégories. Bien que celles-ci présentent une structure spécifique, leur construction et leur utilisation demeurent comparables à celles des analogies plus simples. 1. La construction des métaphores. Peu de ressources rhétoriques peuvent se targuer d'être à la fois aussi puissantes, simples et complexes que les métaphores. Puissantes parce que, nous le verrons, elles génèrent des effets variés et profonds, au point que des argumentations entières reposent parfois sur une seule et unique image. Simple puisque, nous venons de le voir, les métaphores ne sont jamais qu'un rapprochement opéré entre deux choses différentes. Complexe dans la mesure où, derrière cette apparente simplicité, se cache en réalité une construction exigeante, nécessitant autant de rigueur que d'inventivité. Pour être exploitable dans un processus de conviction, une métaphore doit en effet respecter trois critères : être claire, neuve et puissante. L'exigence de clarté. Faute d'être claire, lisible, évidente, notre métaphore restera incomprise des auditeurs. Plutôt que de contribuer à l'efficacité de notre propos, elle va au contraire l'obscurcir et entraver notre capacité à convaincre. Nous espérions susciter l'adhésion, nous ne recueillerons que l'incompréhension. Il existe deux raisons pour lesquelles une métaphore peut ne pas être comprise. La première tient à un défaut de construction pure et simple. L'image choisie possède un rapport trop lointain avec ce qu'elle est censée désigner. Par exemple, si nous disons d'un joueur de football qu'il est un vrai guépard, tout le monde saisit que l'on fait référence à sa vitesse. Mais si l'on dit qu'il est un autocuiseur, il n'est pas certain que nos auditeurs parviennent à nous suivre. Quant à la seconde raison, et en réalité la principale, elle tient à un défaut d'adaptation. L'image choisie, bien que cohérente, est tout bonnement inconnue des auditeurs. Ceux-ci comprennent qu'ils sont face à une métaphore, mais, dépourvus des références nécessaires, échouent à en décoder le sens. Étude de cas. Je suis le directeur général d'une grande entreprise. À l'occasion de notre gala annuel, j'ai décidé de donner aux employés un discours de mobilisation. Passionné par la mer et la navigation, je décide de faire passer mon enthousiasme à l'aide d'une habile métaphore. Je sais, chers amis, que la période n'est pas facile, mais nous avons déjà mis en place tous les outils nécessaires pour tirer notre épingle du jeu. Le nouveau schéma de management sera notre brigantine. Nous pouvons lui faire confiance. Décryptage. La brigantine. Cette grande voile placée sur le mât arrière d'un navire et qui aide à le manœuvrer. Sachant cela, bien sûr que notre métaphore fait sens. Nous sommes simplement en train de vanter la capacité de notre entreprise à s'adapter aux évolutions du contexte économique. Mais, à l'exception des rares navigateurs présents dans l'assemblée, cette image échappera totalement aux auditeurs. Dans le meilleur des cas, ils en seront quittes pour un instant de circonspection. Dans le pire, nous aurons définitivement perdu leur attention. L'exigence de nouveauté. Faute d'être neuve, inventive, originale, notre métaphore perdra tout impact. Au lieu de mettre en valeur un passage important de notre argumentation, de le rendre saillant, percutant, elle se contentera de ne servir à rien. Pire, trop attendue, déjà vue, éculée, elle devient un cliché. Nous espérions susciter l'intérêt, nous ne recueillerons que l'ennui. L'absence de nouveauté est en réalité le principal danger qui nous guette lorsque nous cherchons à déployer une métaphore. Il n'est pas si facile d'être créatif. Si nous ne faisons pas l'effort de chercher activement à sortir des sentiers battus, nous risquons fort de rester prisonniers d'analogies essorées par des générations entières d'oratrices et d'orateurs. Nous disons de telles métaphores qu'elles sont dévitalisées. Elles errent dans nos discours, ni vivantes ni mortes, inutiles. Et force est de constater que nos prises de parole en regorgent. Suite de l'étude de cas. Les chargés de communication m'ont finalement convaincu de renoncer à la brigantine. Pas assez inclusif, selon eux. Qu'à cela ne tienne, j'ai plus d'un tour dans ma besace de marin. Et je viens d'avoir une riche idée pour l'apogée de mon discours. Alors, chers amis, oui, nous sommes dans la tempête. Mais un capitaine n'abandonne jamais son navire. Il reste à la barre. J'ai fixé un cap, je m'y tiendrai. Ensemble, nous traverserons cette crise. Décryptage. Le capitaine qui tient son cap dans la tempête. L'une des métaphores mobilisatrices les plus anciennes et les plus usées qui soient. Plus encore qu'un cliché, une banalité. Le stéréotype de la métaphore dévitalisée. Si la figure avait été placée à un autre endroit du discours, elle se serait bornée à être maladroite. Mais ici, elle était censée porter notre propos à son acmé, elle risque au contraire de le clouer au sol comme un boulet. L'exigence de puissance. Lorsque nous déployons une métaphore, les exigences de clarté et de nouveauté sont donc des préalables. Mais elles ne suffisent pas, ou du moins, pas toujours. Encore faut-il que l'image mobilisée soit suffisamment puissante pour avoir un impact sur les consciences. Et cette puissance puise à deux sources. La première, c'est l'adaptation à l'auditoire. Il ne s'agit plus ici seulement de nous assurer que notre métaphore soit compréhensible pour les personnes auxquelles nous nous adressons. Au-delà, nous allons faire en sorte qu'elle soit ajustée spécifiquement à elle, pivote sur ce qui leur parle le mieux et s'insère au cœur même de leur système de représentation. Notre interlocuteur est passionné de jazz. Brodons une image sur le jaillissement de la mélodie dans la musique improvisée. Amoureux d'histoire de l'art, tissons une analogie qui exploite la puissance créatrice des maîtres de la Renaissance. Épris de football, imaginons quelque chose autour de la beauté d'une passe réussie comparée à l'infamie d'un tir raté. Bien sûr, un tel travail d'adaptation ne sera pas toujours possible. Lorsque nous nous adresserons à des auditoires vastes et pluriels, il nous faudra bien nous résoudre à utiliser des métaphores à large spectre. Par ailleurs, prenons garde à bien maîtriser les domaines dans lesquels nous nous aventurons. Rien ne serait pire qu'une image pataude qui singerait maladroitement la passion de notre interlocuteur. Mais pour peu qu'elle demeure maîtrisée, il n'y a rien de plus fort qu'une métaphore bien ajusté. La deuxième source de puissance d'une métaphore relève, quant à elle, du mystère. Qu'est-ce qui détermine, au fond, la force d'une analogie? Qu'est-ce qui décide de sa capacité à marquer les esprits? C'est ici que la rhétorique rejoint la poésie. Il n'existe, hélas, aucune formule magique, aucune recette miracle. L'écriture de métaphores n'a rien d'une science, c'est un art, avec tout l'inexplicable et le subjectif que cela implique. Qu'est-ce qui rendra notre métaphore étonnante, élégante, séduisante? Le talent, l'élan, le surgissement. C'est ici que se trouve la frontière sibylline séparant les déclarations efficaces des discours brillants.